C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait 3 ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de leur été invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour conclure 2023, nous voulions partir à la rencontre d'une femme dont nous suivons le parcours depuis quelques années et que nous admirons beaucoup. Nous avions envie de la rencontrer et d'échanger avec elle sur le sens qu'elle donne à son métier et nous sommes ravis qu'elle ait accepté d'enregistrer avec nous le 45e épisode de l'Instant Juillet. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons aujourd'hui Leslie Brochaud. Leslie se présente sur son compte comme « plume du vin » et j'aime beaucoup cette description. Elle dit tout du lien entre la gastronomie et l'art, le plaisir de la dégustation et la poésie. Cela me fait penser à l'atmosphère des œuvres de Maupassant ou de Monet, où le plaisir de vivre est magnifié, où l'on donne à l'éphémère des allures d'éternité, comme l'a justement écrit Safia. Vous l'aurez compris, Leslie nous a touchés par l'importance qu'elle donne à ce qui fait l'essence de l'humanité. Elle est passionnée, elle ose et elle voit le vin comme une matière organique vivante et chargée de signification. Alors c'est un épisode empli de sens que nous vous proposons de partager aujourd'hui, le temps d'un instant juillet. Leslie, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors je l'ai dit, nous avons je crois pour point commun d'aimer les mots et leur poésie et de les utiliser pour transmettre notre passion et le sens que nous donnons à nos instants. Mais à te suivre depuis quelques années maintenant sur ton compte Insta, je crois que nous avons aussi en commun l'attention que nous portons aux 5 sens. Avec la même envie de créer des moments de lâcher prise par le partage et la rencontre. Quand nous créons, nous, un événement, avec Juillet, nous imaginons une ambiance et elle comprend instinctivement la musique, les saveurs, les odeurs, la décoration. Et on cherche toujours à des scénarios les plus accordés pour nos clients, avec l'envie de proposer un instant rare et précieux. Comme je crois, tu te passionnes à chercher les meilleurs accords pour déguster du vin. Et au-delà de ça, j'ai vu que tu proposais un truc assez dingue et que je trouve vraiment génial et j'avais envie de commencer cet épisode par ça. Tu as créé Liaison Gourmande. Alors je décris parce que c'est de l'événementiel, c'est une soirée au cours de laquelle les participants découvrent plusieurs alliances mets et vins soigneusement accordés à la lecture de textes érotiques. Et je trouvais ça en fait brillant de faire le lien entre les saveurs, l'imagination, la création artistique et le plaisir. Peux-tu nous raconter comment est né ce projet ?
Oui, avec plaisir. J'aime beaucoup que tu abordes un petit peu là-dessus. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais qui est un à côté en fait de mon activité professionnelle. En fait, dans les recherches d'accords mets et vins, et comme tu dis, je suis assez liée au sens, je trouvais que tous les sens étaient en éveil quand on déguste du vin ou des accords mets et vins. Donc on sent, on regarde, on goûte, on touche, alors soit avec le palais, soit avec les doigts aussi éventuellement. Et il manquait en fait le sens de l'ouïe. Et puis un jour, j'ai rencontré des filles qui lançaient un podcast, des podcasts de littérature érotique. Donc moi, je n'étais pas forcément très enclin ni à ces lectures, ni aux podcasts comme ça. Mais comme c'était des copines, je me dis, bah, je vais écouter. Et puis en écoutant une ou deux histoires, j'étais surprise du vocabulaire. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de m'entendre parler quand je parle des vins. On va parler d'un vin, on va dire qu'il est charnu, qu'il est pulpeux, que c'est sensuel, que c'est aérien. Voilà, tout ce vocabulaire que je pouvais, moi, utiliser pour décrire les vins ou les accords mets vins, je le retrouvais dans les textes érotiques. Et je me suis dit à ce moment-là, mais attends, c'est super, ça veut dire que je pourrais peut-être réussir à ajouter le sens de l'ouïe à travers les mots et en fait emmener les gens dans un environnement... Bah voilà, de couleurs, de saveurs,
une atmosphère
qui... Et voilà, c'est comme ça que je leur ai dit, bah, et si on commençait à faire des événements d'accords mets et vins qui seraient liés à des textes érotiques.
Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de grands textes littéraires. Alors, je citais Maupassant, mais ça peut être Chauderlos de Laclos, évidemment, sur les liaisons dangereuses, qui est un peu... Mais où, en fait, les textes sont beaucoup aussi liés à la nourriture, la gastronomie française et le vin. Enfin, ça fait partie, justement, de cette ambiance un peu plaisir de vivre. Donc, je trouvais ça intéressant. Et du coup, alors, tu continues à le proposer. Enfin, c'est des choses qui sont organisées, non? Avec tes copines
ou... En fait, on l'a lancé en 2018, après, avant le Covid.
Ah ouais, donc du coup, ça, c'est un peu...
Ça a été compliqué parce que c'était des événements où les gens touchaient la nourriture. Ouais. Parfois, on les touchait aussi, les cheveux, les mains. Enfin, il y avait quand même des gestes pour ajouter
d'un côté un petit peu... Donc, il ne faut pas de stress, en fait. Enfin, il faut être détente sur...
C'est vrai que le Covid a mis un gros coup là-dedans. Donc, moi, j'ai lancé en parallèle des coffrets. Aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui venaient pas aux événements un petit peu de peur de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc parce qu'en fait je trouve que ça m'a fait doucement rigoler, mais le fait d'aborder l'érotisme, les gens te mettre direct dans une catégorie libertin.
Ouais, c'est ça, ou alors porno, que,
ou
tout
porno,
de suite.
De sexualité, alors qu'on parle de sensorialité. Ouais, pour moi, sûr. L'érotisme, c'est sensoriel, c'est pas sexuel. Bien sûr, il y a des mots crus et ça peut donner des envies, bien sûr, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui se privaient peut-être de venir, ça marchait vraiment très très bien. Parce que peut-être de peur de qui on va y croiser et autres.
Oui, bien sûr.
Et donc, j'ai créé les coffrets en me disant, au moins, les gens peuvent le faire chez eux, dans l'intimité de leur couple ou peu importe. Et donc voilà. Donc, maintenant, j'ai des coffrets. J'en vends encore quelques-uns, mais c'est très anecdotique. Okay. C'est ma petite activité, d'à côté.
Ouais, j'avais trouvé ça vraiment original. Mais alors, du coup, comment tu décris ton métier aujourd'hui ? Alors, plume, entrepreneur, œnologue ?
Alors, le métier... encore une fois, là, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à me définir. Et je pense que Plume du Vin, aujourd'hui, ça me correspond. Quoique encore, en fait, j'ai beaucoup de casquettes. Elles sont assez multiples. Donc, j'écris. J'accompagne des acteurs du vin dans leur communication, les événements qu'ils peuvent créer, réaliser, etc. Donc, il y a une grande part d'écriture pour raconter les histoires, pour raconter les vins, pour raconter les domaines, pour raconter les terroirs. Je travaille beaucoup avec des syndicats de régions de vin. Okay. Donc, on raconte les régions, les appellations, etc. Puis, il y a toute une casquette plus création de contenu. Donc, je fais des podcasts pour certains clients. Je fais des vidéos, comme on peut le voir sur mon compte Instagram, avec des recettes d'accord mets et vins, avec des descriptions de terroirs et toujours l'idée d'avoir un ton un peu... Je fais attention au choix des mots parce que pendant un moment, je disais un petit peu décomplexé. Mais c'est pas ça, c'est plutôt un ton facile à comprendre et pourtant rester dans l'expertise tout en étant intelligible, en fait, c'est l'idée. Et puis avec un petit sourire derrière, quoi.
Et alors, est-ce que par exemple, parfois tu les aides à trouver un nom de cuvée ou ce genre de choses ? Non, ça c'est.
Non, j'interviens pas encore vraiment à ce niveau-là, quoique ça pourrait arriver qu'un.
Ah, parce que je trouve que les vins, je trouve qu'il y a un grand changement là-dessus. De plus en plus, les vignobles, ils sortent des cuvées avec des noms, on voit qu'ils sont réfléchis, on voit qu'il y a une cohérence entre les années, etc. Donc je me dis qu'il y a peut-être un travail qui a été fait.
Il y a une volonté déjà de se moderniser, ne serait-ce qu'aussi au niveau des étiquettes. On voit des étiquettes beaucoup plus colorées, beaucoup plus. C'est attrayant. Ça donne envie aussi pour séduire une population plus jeune. C'est un besoin de modernité, donc ça passe effectivement par le nom, l'étiquette et autres. Ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais d'ailleurs, si des domaines nous entendent, je serais ravie parce que c'est vraiment cet aspect créatif de mon métier que j'aime beaucoup. C'est l'objectif, la mission, de quoi on veut parler et qu'est-ce que je vais pouvoir créer autour. Et puis après, j'ai quand même une casquette d'événementiel, entre guillemets. J'organise quand même toujours des événements, des masterclass, je fais un petit peu de formation. Voilà, donc c'est vrai que multicasquette, entrepreneur, je suis à mon compte. Et puis après, multi-casquette.
Et alors, comment t'es arrivée dans ce domaine ? Alors, t'as une formation d'œnologue ? Non, pas du tout ?
Non, alors c'est intéressant cette question. L'œnologie, c'est vraiment... Il faut voir l'œnologue comme un chimiste. C'est vraiment le chimiste du vin, en fait. Il faut être fort en physique-chimie. Pour la petite histoire, je crois qu'en première, j'avais 0,5 de moyenne en physique.
Moi, j'avais un super prof de physique chimie, donc j'avais une bonne moyenne.
Ouais, non, mathématiques, physique, c'est des concepts qui, ça me dépasse totalement. Donc, malheureusement, je n'aurais pas pu être œnologue. Je ne suis pas non plus sommelière parce que j'ai fait des formations de sommellerie, d'œnologie, mais j'ai pas passé les diplômes qui t'amènent vraiment à avoir cette case-là. En revanche, je suis venue au vin. Comme beaucoup, par mon papa qui, lui, était un passionné de vin et qui me faisait déguster des vins en comparaison. Enfin, il m'interpellait sur, c'est pas juste une boisson, sens-la, regarde-la, goûte-la, compare-la.
Un petit rituel sur...
Ouais. Et puis lui, en fait, il adorait aussi faire des voyages dans le vignoble et autres. Et donc, en fait, il me parlait des vignerons. Qu'est-ce que c'est avec le vin? Comment c'est fait? Pourquoi? Enfin, pourquoi ça l'intéresse? Donc, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas juste une boisson comme ça. C'était.
Oui, il y avait une histoire derrière.
Il y avait beaucoup de partage aussi. Ouais. Okay. Et puis de voir ses grands-parents réunis autour d'une bouteille. Enfin, j'avais bien senti qu'il y avait un truc qui était assez, intéressant, très curieux avec ce produit. Et j'ai fait moi-même beaucoup de route des vins, quand j'ai commencé un peu à voyager toute seule. J'ai un parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le vin. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, il serait temps de faire quelque chose qui me plaît.
Qui a du sens. Ouais.
Qui a du sens, pour lequel je suis curieuse et dans lequel j'ai vraiment envie de me donner. Et quand j'ai quitté mon boulot en 2017 ou 2018, je suis pas très bonne avec les dates. Et je me suis dit, faut que je trouve quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et tout mon entourage m'a dit, le vin, enfin, ça paraît évident, j'organisais déjà des dégustations, j'étais passionnée par ce domaine, donc j'avais déjà des formations professionnalisantes, mais je m'étais dit que c'était vraiment un à côté. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer, puis petit à petit de continuer à me former, de continuer à apprendre, à lire, et surtout, je pense que à continuer les voyages dans le vignoble, parce que finalement, c'est quand même là qu'on apprend tout, quoi, ou le plus.
Et alors c'est assez drôle le lien que tu fais, parce qu'effectivement le vin c'est pas qu'une boisson, là tu vois, tu parles de l'ambiance autour, des gens qui se rassemblent autour d'une bouteille, ou de l'ambiance de famille, ou des souvenirs que ça peut apporter, et c'est un peu le lien qu'on fait aussi avec l'art en général, donc le partage autour d'une œuvre d'art, d'un livre qu'on a lu, etc. Et puis je vais aller jusqu'à la philosophie, parce que j'ai vu que tu avais fait un podcast ou quelque chose avec Marie Robert,
oui,
qui est une philosophe qu'on suit nous, et on s'est beaucoup inspiré sur Juillet, parce que je la trouve géniale, parce qu'elle vraiment, elle vulgarise la philosophie et qu'elle permet d'aller sur des concepts compliqués, mais assez facilement. Et donc, comment vous êtes rencontrés? Est-ce qu'elle a fait un lien, du coup, avec le vin? Vous avez fait un...
Alors, j'aime beaucoup Marie parce qu'effectivement, elle vulgarise des choses qui sont compliquées, et surtout, elle a une vision extrêmement positive de la vie, et ça fait du bien.
Oui.
On en a vraiment besoin. Je lis tous ses messages tous les matins. Elle met une petite note sur Insta qui te donne du baume au cœur. Oh, parfois, elle met des petits coups de gueule et tout, mais souvent, c'est avec beaucoup de bienveillance et ça fait toujours réfléchir.
Et en tout cas, la conclusion est toujours sur l'espoir de faire mieux. Ou
ouais.
Tout à fait.
Et ces petits shots de positif tous les matins, ça fait du bien. J'ai contacté Marie parce que j'avais lancé une émission qui s'appelait Le Comptoir de Leslie, où j'invitais des gens autour de sujets divers et variés, avec le vin en ligne de mire, mais voilà, on a pu aborder des sujets un petit peu plus larges ou sociétaux. Et j'ai notamment fait cette émission sur l'ivresse, et j'avais envie d'interviewer le point de vue d'une personne du vin et le point de vue d'un philosophe. Et en regardant autour de moi, je me suis dit, Marie semble être la personne... Enfin, j'avais envie d'avoir son avis sur la question de l'ivresse. Donc on a fait cette émission, et ouais, ça, alors déjà c'était passionnant de la rencontrer. On est resté en contact. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens de finir l'écriture d'un livre sur l'ivresse.
Super.
Comme quoi les choses, les opportunités s'enchaînent comme ça. Et Marie a participé à une partie qui sera la partie sur la philosophie de l'ivresse.
Mais en plus, c'est intéressant parce que l'ivresse, effectivement, c'est pas toujours lié à l'alcool. L'ivresse, ça peut avoir plein de sens. Et en philosophie, c'est un vrai concept aussi.
Exactement.
Ouais, c'est vraiment intéressant.
Pourquoi on s'enivre? Pourquoi on fait ça depuis tout temps? Comment la philosophie le décrit? Comment les philosophes le décrivent? Ça fera l'objet d'un des chapitres du livre.
Et mais un petit peu comme la fête, nous on a souvent cette remarque là quand on fait de l'événementiel, donc on dit souvent on fait des fêtes, ok, et donc ça peut paraître ah ouais mais c'est juste festif, ou ok donc ça veut dire beaucoup d'alcool, ça veut dire, mais en fait la fête c'est un vrai moment de cohésion sociale hyper importante, et on l'a vu pendant le Covid, quand on l'a plus, c'est hyper difficile pour tout le monde moralement, pour tenir le lien entre les gens, et la philosophie et l'art et justement tout ce qui tourne autour du vin, c'est hyper important aussi. Je trouve que c'est vraiment lié.
En fait, pour moi, la vision que j'ai du vin, surtout du vin, je pense que c'est l'alcool que je trouve gustativement le plus intéressant, mais aussi même dans les ivresses qu'il procure, le vin ou le champagne, surtout le champagne. C'est qu'en fait, oui, c'est du lien social, évidemment, mais c'est de la matière à réflexion. Parce qu'en fait, quand on boit un vin, on discute... Enfin bon, moi je discute beaucoup du vin. Mais même les gens qui sont dans l'univers du vin, il te plaît ce vin? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, comme les odeurs ou les goûts, il y a parfois, il peut arriver des petites madeleines de Proust, des trucs de oh, qu'est-ce qui se passe là?
Et donc,
ça me rappelle, on a tous en fait des histoires ou des choses qui se sont passées, soit familialement avec la famille autre ou des amis, où ça va nous rappeler ces moments-là. Et on va être dans l'émotion, on va pas être dans forcément la réflexion ou le small talk, c'est vraiment tout d'un coup, la personne va se mettre à parler. Et je trouve que la philosophie, comme le vin, délie les langues, mais en fait, est une matière à réflexion et à discussion. qui dépasse le stade du bon alors il fait pas très beau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on
non, oui, c'est ça.
On va rentrer directement
presque intime quoi.
Bah en fait, on peut vraiment aller assez vite dans ah et ce vin pourquoi tu as une émotion là, et donc la personne va te raconter un bout d'elle qui serait jamais sorti si on n'avait pas parlé de ce vin là.
C'est
parce
chouette.
Que la Syrah, moi, ça me rappelle. Enfin, tu vois, on a. Y a
ouais, ça touche à des choses un peu intimes, d'émotions, et donc ça permet vraiment de lier les gens sur autre chose. Mais c'est pour ça que pour des team building, c'est super important aussi.
Ouais.
Quoi, c'est un moment de partage vraiment intéressant. Ça permet de créer un groupe, quoi.
Exactement. Donc, le problème de l'alcool dans les entreprises, c'est que aujourd'hui, on est quand même dans une société un peu plus hygiéniste. Enfin, parfois, ça peut être compliqué. Et t'as envie de dire, l'idée, c'est pas de venir faire une dégustation pour que tout le monde soit sous, mais au contraire, c'est pour partager, pour échanger à travers un produit qui déjà a beaucoup de choses à raconter. C'est pas
et
juste.
Puis, le vin, c'est typiquement l'alcool qu'on boit pas pour boire. Enfin, l'idée, c'est justement de se dire, voilà, quel vin tu aimes, comment tu l'accordes justement avec ce que tu vas manger, comment tu dégustes.
J'écoutais ce matin en vous attendant un podcast de Jessica Troisfontaine qui a lancé son podcast Ressentir, qui est très intéressant. Et son invité Mokhtar parlait de sa relation à la nourriture. Et il parlait vraiment voilà, de ce descriptif des saveurs en bouche, de tout ce qui lui arrivait. Et moi, je me disais, est-ce que je ressens la même chose sur la nourriture? Et je dis, oui, j'aime bien la nourriture, mais en fait, moi, le plaisir de la saveur, de la texture, des goûts, je l'ai beaucoup plus avec le vin, en fait. Bon, voilà, je vous partage ma réflexion de ce matin. Voilà, en fait, je pense que... Ouais, tout à fait.
C'est vraiment intéressant parce que ça montre que c'est voilà, un moment vraiment de partage et qui permet d'ouvrir à des souvenirs, à des histoires, puis à des nouveaux souvenirs qu'on crée ensemble sur cet instant. Je trouve ça vraiment chouette. Et comment il est accueilli, du coup, enfin, comment est accueillie ta manière de parler du vin ou de vulgariser ce vin qui est un peu sacralisé en France de la part du milieu un peu traditionnel des vignobles français?
Très bonne question, Michel. Alors, le truc, c'est que je pense que je me suis très vite bien entourée de personnes assez importantes dans le vin, assez respectées dans le vin, dont notamment Franck Ramage, qui a été mon mentor, clairement, qui m'a aussi prise sous son aile. Et donc, le fait d'avoir sa validation à lui quand je lui ai montré mes premières vidéos déguisées en citron pour parler de l'acidité, déguisées en fraise pour parler de l'arôme de fraise. Enfin, je laisserai le public éventuellement aller voir les autres saveurs, fruits, légumes dont j'ai pu parler. Voilà, j'avais son approbation et il m'a dit en fait, c'est très marrant ce que tu fais te déguiser, mais en fait, il y a beaucoup de fond et tout ce que tu dis est travaillé. Est juste et on voit qu'il y a énormément d'expertise derrière, donc fonce, vas-y. Et donc en fait, je pense que je me suis mis un petit peu de mon côté certains qui auraient pu être tracassés de voir arriver un énergumène déguisé qui fait des blagues sur Poutine, parce que je dis à un moment, il y a des moments où je fais des petites blagues comme ça, déguisé en citron pour parler des notes du vin. Mais en fait, je pense qu'il y a ceux qui regardent et ceux qui ne regardent pas. Ceux qui ne regardent pas vont pouvoir dire « C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore ?» Elle veut vraiment se faire remarquer. Et je pense qu'il y en a, sauf qu'on ne m'a jamais critiqué en face. Ça doit se faire derrière le dos et que ça y reste. Et après, en fait, il y a ceux qui écoutent et qui, à un moment donné, finalement, ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de fond ou pas de travail, pas d'expertise. Donc, ça a été plutôt très bien accueilli. Et j'ai même eu des réactions... très très positive et surprenante de grands sommeliers notamment qui m'ont dit waouh, bravo, parce que c'est un travail qu'on n'aurait jamais pu faire, c'est intelligent et effectivement c'est drôle en fait et ça fait du bien au monde du vin.
Oui, c'est ça, ça détend aussi un peu, c'est-à-dire que peut-être justement à trop sacraliser, ça permet aussi de se dire ok, j'ai le droit d'aimer ce vin là par exemple, ou de l'accorder avec tel plat, ça se fait pas normalement, mais je me dis, je me l'autorise, c'est cool, ça reste du plaisir.
Voilà, c'est ça, il faut que ça reste du plaisir, mais surtout, je pense que là où c'est important pour moi, c'est de, peu importe le ton qu'on prend, et si on veut être très libre, etc., faut quand même rester, faut pas dire de bêtises. Parce qu'après, il y en a qui peuvent aussi prendre le parti, de dire, oh, bah allez, moi je parle du vin, allez, c'est simple, c'est facile, mais qui disent... Je dis pas que le vin c'est compliqué, mais il y a quand même, enfin, faut pas dire trop de bêtises non plus. Moi, je fais vraiment attention à beaucoup travailler mes sujets en amont pour essayer de dire le moins de bêtises possible. Je dois en dire, mais voilà, l'idée c'est de garder quand même.
Évidemment, la question qui nous intéresse forcément, c'est quel est du coup le vin que tu préfères? Quel est celui ou le
vin
ou le cépage? Non, je ne sais pas.
Il y a beaucoup, beaucoup de vins que j'aime, mais notamment, on va dire, un de mes cépages préférés originaires de la région de la Loire, c'est le chenin blanc.
Bien sûr. Ouais.
C'est un cépage que je trouve, sous toutes ses coutures, très intéressant et Enfin, je l'aime en sec, en moelleux, en liquoreux. Je l'aime vraiment sous toutes ses formes, surtout ceux de la Loire. Et, mais après, voilà, j'aime le Riesling, j'aime les vins rouges. J'aime, non, c'est très difficile à dire le vin préféré.
Ouais, c'est pas facile.
Mais en revanche, des styles de vin, ça va être des vins plutôt frais. J'aime beaucoup l'acidité. Mmh. J'aime les vins digestes. Donc tout ce qui est dans la Loire, c'est ce que je préfère.
Et même le rouge, du coup, un peu frais. Parce que les ça, rouges un peu frais, on le voit maintenant, ouais. Des vins de Loire rouges frais qui sont plutôt agréables à boire. Quoi.
J'adore le Cabernet Franc. Mais justement, la Loire, là où la Loire pouvait s'ouvrir un petit peu sur les vins rouges, parce que parfois, il faisait très frais dans la Loire, donc des manques de maturité, on allait un petit peu critiquer la verdeur des Cabernet Franc. Aujourd'hui, la Loire, c'est the place to faire du vin, parce que les maturités sont parfaites, que ce soit en blanc comme en rouge. Et aujourd'hui, les rouges de Loire, enfin, c'est des petits bonbons, quoi.
Non, puis on a en plus des domaines aujourd'hui qui se sont vraiment justement ouverts aussi et qui font de plus en plus de belles choses et qui changent leurs étiquettes et qui font, voilà. Et...
Bah, je trouve que la Loire, c'est vraiment un vignoble. Alors, il est large, hein, parce qu'on part du Muscadet, donc on part du Pays Nantais et on va jusqu'au centre, Côte Rouennaise même, en fait. Ça, c'est le vignoble de la Loire, donc il est très étendu. Si on parle de votre Loire, qui est plutôt vers le Romorantin, la Sologne, c'est vrai que c'est aussi des vins, enfin c'est un vignoble qui est moderne, qui se modernise et qui est à l'écoute des évolutions.
Oui,
je trouve.
Et alors du coup, si tu peux pas dire ton vin préféré, alors je dirais pas le pire, mais est-ce qu'il y a une fois où ça t'est arrivé un truc où tu pouvais pas le boire, ou alors l'accord n'allait pas du tout, le pire?
Ouais, bah alors après, pour le coup, les vins que j'aime pas, ça va pas du tout être significatif, enfin propre à une région. C'est juste que ce sera le travail d'un vigneron que j'aurais pas aimé, ou un vin qui, selon moi, a des tanins. J'aime pas le bois. J'aime pas trop le bois, par exemple. Donc effectivement, un vin qui va être beaucoup trop boisé, ou le bois serait pas du tout intégré, ça va pas me plaire. Les styles de vin à l'américaine, à la Parker et tout ça, je rien que quand je sens trop de bois, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller. Peut-être ce serait ça.
Et alors, quelles ont été les personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que c'est des gens dans le monde du vin qui t'ont inspiré, ou est-ce que tu as des grands artistes ou des grandes personnalités qui t'ont inspiré dans d'autres domaines?
Alors, j'avais un peu anticipé la question. Alors, j'ai essayé de réfléchir notamment à est-ce qu'il y a des artistes ou des gens connus ou qui m'ont inspiré. En fait, j'en ai pas tant trouvé que ça, et je me suis rendu compte que les gens qui m'inspiraient le plus, c'était vraiment les gens avec qui je choisissais de m'entourer. Donc mes amis ou les gens du vin avec lesquels j'ai choisi de m'entourer, notamment je parlais de Franck qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de réfléchir aussi la formation. C'est ça, c'est mes amis, de les voir dans leurs réussites, dans leurs échecs, comment ils se questionnent, comment ils se relèvent, comment ils s'améliorent. Et j'ai réussi à mettre autour de moi que des gens qui réfléchissent, qui ont de la bienveillance, qui se posent des questions et avec qui on peut vraiment discuter en profondeur. Et c'est ça qui m'inspire en fait. C'est ces gens-là qui m'inspirent, plus donc que
pas,
des artistes.
Mais, et du coup, pas forcément dans le monde du vin, mais plutôt des gens, quel que soit le domaine, mais qui sont capables de bienveillance, c'est bien, et de résilience aussi.
Des personnes comme Marie Robert, elle m'inspire énormément aussi dans sa réflexion, dans sa générosité.
Et alors, est-ce que tu as des lectures fétiches? Tu lis un petit peu?
Alors, je lis un petit peu. Alors, pendant des années, je ne faisais que de lire des choses autour du vin. C'était le vin, le vin, le vin. Et puis, effectivement, j'ai redécouvert la lecture de romans, notamment, on va dire, il y a 2 ans. Moi, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire que des choses autour du vin. Donc oui, je lis un petit peu de romans. Après, j'ai cette tendance à adorer un livre. Et une fois qu'il est fini, j'oublie assez vite mes lectures. Là, tu vas me demander dernièrement qu'est-ce que j'ai lu
pas du tout, mais parce que je me disais, alors moi j'adore, je lis beaucoup, enfin moi j'aime bien la littérature, mais je suis assez classique, c'est-à-dire j'ai du mal à me mettre dans les nouveaux romans, ça fait un peu vieille quand je dis ça, mais moi j'aime bien la grande littérature, quoi, donc j'aime bien relire toujours les mêmes auteurs, où je découvre des subtilités dans le vocabulaire, où j'aime bien la façon dont la phrase est construite. Après, je me dis, ah, je pourrais écrire un texte où j'utilise cette construction de phrase qui est vraiment géniale et tout, enfin voilà, j'aime bien décortiquer les livres, et j'ai trouvé justement, parce que c'est ça qui m'avait interpellée au départ quand j'avais découvert ton compte, Plume du vin, je trouvais ça génial parce que je me disais, il y a tellement à dire pour décrire par exemple une bouteille de vin, ou la façon dont un vin est construit, ou l'histoire d'un vignoble, etc. Et je me dis, forcément, cette nana, elle doit lire pour après arriver à écrire ou à trouver le mot qui va correspondre à l'émotion que tu ressens. C'est des choses qui sont très difficiles.
En fait, j'ai toujours un ou deux romans en même temps, ça c'est je pense d'ailleurs le problème, c'est peut-être pour ça que parfois je retiens pas. Je me dis qu'il faudrait que j'arrive à me concentrer vraiment.
Ah oui, ça je sais pas faire. Moi quand je lis un livre, je peux pas en commencer un autre. Si je l'ai pas fini, je peux pas.
Ça dépend si je suis super prise dans l'histoire, du coup il y en a qu'un, mais parfois je décroche un peu, je me mets sur un autre et puis du coup je suis embêtée avec les deux. Mais en plus vous pouvez le voir ici, on est pas mal entouré de livres et tout, mais j'ai toujours effectivement à portée de main des livres, des citations. J'ai un peu mon carnet de citations, tu vois, pour y revenir. J'ai une liste de mots que j'aime bien, des mots du vin, tu vois, où je mets tous les mots de vocabulaire que je trouve sensoriels, qui me parlent dans leur texture et autres. Donc parfois, quand je dis tiens, qu'est-ce que je vais exprimer là, si j'ai pas forcément le mot en tête, je regarde un petit peu mes listes de mots, je dis bah voilà, c'est pulpeux que je voulais dire, voilà.
Parce que c'est hyper intéressant dans l'imaginaire, on fait moins en moins ça maintenant qu'on a les téléphones et les écrans, etc. Mais je trouve que quand on boit du vin, justement, c'est parfois très difficile et il y a plein de gens qui ont du mal à décrire ce qu'ils vont ressentir, et on le voit nous dans des fois des dégustations qu'on fait. Ok, qu'est-ce que vous pensez de ce vin-là ? Les gens savent pas dire, est-ce qu'il est acide ou pas, je sais pas, est-ce qu'il est fruité, je sais pas, la couleur, je sais pas comment la décrire, parce que c'est ni rouge, ni rose, ni... Il faut quand même un petit peu de vocabulaire, je trouve, et c'est assez lié à la littérature, parce que c'est des mots qu'on n'emploie pas souvent au quotidien, en fait, pour aller décrire une émotion, ou décrire une couleur vraiment particulière, ou
Je trouve qu'on est très peu sollicité ou encouragé à solliciter nos sens, notamment l'odorat et le goût un peu plus, parce que la gastronomie c'est un peu plus stylé. Maintenant à la télé, enfin je regarde pas la télé, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu sur la gastronomie, qu'aujourd'hui être chef c'est le métier, et tout ça.
Le vin
c'est un peu plus compliqué, parce qu'avec la loi E20 on peut beaucoup moins en parler, donc il y a moins d'émissions, même de radio, il y en a un petit peu de vin à la radio, mais bon c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que sur les odeurs, moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans... soit qui sont parfumeurs, soit qui sont journalistes parfums et autres, avec qui on discute beaucoup, on n'est pas du tout encouragé à déjà sentir, à être conscient qu'on a un nez et qu'on sent avec ce nez, et surtout à savoir ce qu'on en pense et savoir analyser les odeurs qu'on reçoit. On sent et en fait on se fait pénétrer par une odeur et on sait pas trop, et puis on passe à autre chose, alors qu'en fait l'odeur elle va générer un tas de multiples émotions,
et notamment des souvenirs, et notamment une odeur qui rappelle quelque chose et qui t'emmène vers
et de se dire pose-toi avec ces odeurs, pose-toi avec ton émotion, respire-la avec tes... Moi ce que je dis souvent en dégustation, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais le faire ce soir, j'ai une dégustation, je vais le refaire. Je leur dis vous sentez le vin, je dis surtout sentez avec vos deux narines. Et là, ça fait rire tout le monde. Je dis, mais en fait, quand on sent, souvent, on fait à peine comme ça le bout du nez. Mais non, mais la pleine conscience de mettre son nez d'inspirer avec ses deux narines, de gonfler ses poumons et de voir comment l'odeur nous parle. Donc, c'est sûr que c'est pas facile d'avoir le vocabulaire, mais c'est surtout pas facile de se dire, tiens, je vais me poser avec l'odeur ou avec le goût et je vais me demander ce que j'en pense.
Et alors, est-ce que parfois tu mets de la musique aussi dans tes dégustations ou pas du tout ?
Alors, celle de Liaison Gourmande, oui, parce qu'il y avait des textes qui étaient...
Donc il y avait un fond sonore.
Sinon, non, parce que souvent, ça peut être le brouhaha. Ouais. Sachant que moi, je recrache, mais en général, les gens ne recrachent pas. Donc au bout d'un certain moment, le volume sonore monte. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de musique. Mais non, je ne joue pas encore beaucoup avec la...
Parce qu'en fait, souvent, la musique, ça aide aussi à l'ambiance. Enfin, moi, j'avais en souvenir, ce qui n'a rien à voir avec le vin, mais tu vois pourquoi je fais le lien. Il y avait un commerce à Blois dans lequel j'aimais beaucoup aller, qui était un fleuriste. Donc, déjà, il y avait des odeurs parce qu'on arrivait. Et en même temps, il y avait un petit peu de déco. Et il y avait toujours une musique classique, soit des opéras, soit des grands compositeurs classiques, ce qui est très rare dans les magasins. Et donc, en fait, quand on rentrait dans ce magasin, cette odeur de fleurs, la déco un peu baroque, et puis cette musique incroyable de l'opéra ou qui résonnait, je me suis dit, mais c'est vraiment des génies, les gens de ce magasin, parce que t'arrives dedans, t'es obligé, tu repars avec des fleurs. Ouais. T'es dans le truc.
Tu fais l'association, et ça te met dans une ambiance.
Exactement.
Directe,
Et je me dis, avec le vin, c'est un peu aussi la même histoire. Parfois, on est à un repas ou dans une soirée, on boit un verre de vin, il y a une petite musique, et je sais pas, la musique, des fois, elle peut amener aussi sur une envie de vin différente, une envie de soirée, de l'accorder différemment.
Ça, je pense que c'est très important d'avoir cet espace musical quand t'es à un dîner, par exemple, et que tu bois le vin. Mais le problème de la dégustation, c'est que ça sollicite énormément d'attention.
Et donc, en fait,
tu demandes aux gens de sentir, de goûter, de qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu leur donnes souvent des infos sur le vin, les terroirs. C'est énorme. Donc si tu rajoutes en plus une information musicale,
Ouais.
Moi, je sais que je suis assez pollué par les choses extérieures, que ce soit les odeurs, les lumières, les... Quand il y a trop de choses, après, je fais je retiens plus rien. Donc, mais quand t'es dans un dîner, que t'es assis, que tu bois ton vin, que tu prends le temps et que t'es pas sollicité sur voilà, qu'est-ce que t'en penses, d'où ça vient et tout, ouais, la musique, c'est important.
Et c'est vrai, du coup, tu disais, tu recraches, et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Mais moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, rien que d'avoir le vin en palais, même sur recrache, tu as le goût, en fait. Mm. C'est vrai que, enfin, moi, en fait, avant, je pensais, en fait, tant que tu n'avales pas, tu n'as pas le goût du truc, mais en fait, pas du tout. Mm. Mais voilà, je trouve qu'effectivement, les gens, de toute façon, c'est normal, ils veulent pas. Ils veulent
mais surtout que c'est
boire,
marrant, on parle beaucoup du goût du vin, mais moi, c'est beaucoup moins le goût que les textures du vin qui m'intéressent. Le vin, ça a une texture avant tout. Tu présentais le vin est une matière organique, une matière vivante.
Oui, c'est ce que tu avais mis. Ouais,
le vin, c'est une matière qui bouge dans la bouche, qui a une texture, qui a une longueur, qui a des saveurs. Pour moi, avant d'avoir des goûts, parce qu'encore une fois, les goûts, c'est comme l'odeur, c'est tellement subjectif que je peux t'en parler mille ans, mais en fait, chacun va penser ce qu'il veut. Mais des textures, des façons de se mouvoir dans la bouche, etc. Moi, j'amène vachement les gens à se concentrer là-dessus, parce que c'est là aussi que tu peux avoir des grosses émotions quand un vin est crémeux, quand un vin est ondulant dans ta bouche, et là, waouh, tu comprends pas ce qui se passe, t'as envie de le garder, et limite, effectivement, que tu l'avales ou que tu le recraches, t'as eu cette émotion en bouche. Donc... Mais c'est toujours... Mais bon, oui, après, je comprends que ça puisse troubler le fait de recracher. Surtout, les gens te disent, mais attends, mais quand c'est des grands vins qui coûtent très très cher, qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, parfois, tu recraches à l'intérieur, quand même, discrètement.
Mais c'est vrai que c'est le côté sacré du vin. En France, c'est hyper important. Hein. Donc, effectivement, un bon vin, ouais, tu vas pas le cracher, ça, c'est sûr.
Mais j'avais fait une dégustation de vin arménien. Ah oui. Chez un caviste qui s'appelle Kenatz dans le 15e, et bon, on était entre nous, donc il me dit je te laisse recracher, mais il me dit si un jour tu vas en Arménie, surtout ne recrache pas, c'est une insulte pour le vigneron. Tu te fais foutre d'or à coups de pied aux fesses, hein. C'est vraiment une insulte.
Donc, oui, parce que c'est comme si tu l'avais pas aimé, quoi.
Voilà,
t'es même pas
professionnel
capable de
la vanner, ou non, ouais, c'est tu le bois.
Donc après le voyage en Arménie,
voilà, faut avoir le foie solide.
Mais alors, c'est drôle sur le vin parce que tu as l'histoire effectivement du vin, enfin la boisson là comme tu le dis, les textures, etc. Mais il n'y a pas longtemps, nous on a fait un podcast avec un vignoble local et qui nous expliquait en fait lui sa passion pour sa terre, le côté vraiment culture du vin, agriculture, et il nous a beaucoup fait rire parce qu'il parle à ses cailloux. Quoi, parce que sa terre, en fait, pour lui, c'est le raisin, il va être différent en fonction des cailloux qui sont dans le sol. Donc, il nous racontait ça. Et quoi, ça ressemble un peu à ce que tu dis. C'est-à-dire que du début, de la création, du tout début du vin jusqu'à la bouteille que tu vas boire, en fait, chaque métier est dans un truc un peu mystique, un rapport un peu aux émotions.
Chaque élément, que ce soit le sol, le climat, l'exposition, la main du vigneron, est-ce que le vigneron parle à ses vignes ? Il y en a qui sont à ce niveau-là. Et
mais
franchement,
oui, mais c'est ça,
je crois vraiment que ça puisse avoir un impact. Enfin, y a certains gars qui sont des fous furieux, ils te disent comment ils font leur vigne, mais quand tu goûtes le vin, tu fais genre ah ouais, ok, il y a vraiment un truc. Alors est-ce que c'est parce qu'ils t'emmènent dans leur...
Non, mais je pense que c'est quelque chose d'artistique en fin bien de compte. Sûr, ça veut dire sûr. Que le gars, il a sa création et il y met quelque chose. Finalement, si c'est quelqu'un d'autre qui va cultiver ses vignes, ça sera pas pareil, quoi.
Bien sûr.
C'est passionnant, je trouve.
Chaque élément va avoir un impact sur le goût de ton vin final. Et puis après, comment tu te sens aujourd'hui va avoir un impact sur comment tu dégustes aujourd'hui. C'est aussi ça qui est fascinant. Je veux dire, on peut faire des grandes théories sur le vin, etc. Au bout d'un moment, si t'es fatigué, de mauvaise humeur, de très bonne humeur, si t'as terre avec, si ça va pas du tout, tu t'es engueulé avec ton copain la veille, tu vas pas déguster
mais
pareil.
Non, c'est vrai.
Il y en a qui arrivent à avoir une grande neutralité, mais quand t'es un être d'émotion... Il y en a ils arrivent à se délier de leurs émotions, je sais pas comment. Mais quand t'es un être d'émotions et t'es chaviré par tout ce qui t'entoure, non, le vin il a jamais le même goût en vrai.
Non, puis c'est assez. Ça me l'a souvent fait en vacances. C'est-à-dire que tu vas en vacances, tu vas tomber sur un domaine, tu dis tiens, je vais aller rencontrer, je vais goûter le vin. Ah, il est génial, je l'achète, tu l'as trouvé super bon et tout. Tu rentres, tu loues chez toi. Bah non, en fait, il est pas. Bah,
ouais, mais son histoire.
T'es plus en vacances, t'es plus dans le moment, t'es plus. Et en fait, toi, il est pas ouf. Bah, ouais.
Ouais, mais tu vois, si tu prends une caisse, c'est pour ça que je conseille toujours de prendre une caisse de vin, c'est que tu vas peut-être leur goûter une fois à la rentrée et comme tu seras pas contente parce que c'est septembre, il pleuvra ce jour-là, ton vin il va pas être ouf, mais tu vas le reboire dans 6 mois avec une paire d'amis et tout ça, et là tu vas peut-être retrouver pas forcément le goût, mais une émotion.
Ouais. Et puis te rappeler, finalement, c'était dans un bon moment que tu revis là, un petit peu.
Et
ouais,
puis le vin, il bouge dans sa bouteille aussi. Enfin, c'est jamais constant, tu vois. À un moment donné, les vins, ils sont comme nous. Hein. Ils peuvent être fermés. Il y a des jours où les vins, ils sont fermés. Tu les ouvres, s'il fait froid ou une humidité qui ne convient pas, le vin, il est fermé. Il ne va rien donner. Tu l'ouvres deux jours après, le vin, je ne sais pas, il va être... enfin, peut-être pas deux jours, mais six mois après, le vin va être plus fruité, plus délié. Il se sera détendu en bouteille. Enfin... faut prendre tout ça en compte. C'est pour ça que ceux qui te disent non, ça sent ci, ça sent ça, ça goûte ci, ça goûte ça, c'est des conneries.
Donc en fait, il faut acheter une caisse. Moi,
ah, toujours. Ça, du coup. Ou deux, mais au moins une. Je suis l'ami des vignerons.
Et alors, du coup, on pose souvent cette question-là pour conclure le podcast sur les projets futurs. Quel est ton demain, Leslie ? Comment tu vois la suite pour toi ?
Ah, bah ça, enfin, bon, alors, ouais, c'est une question très.
Hyper large.
Métaphysique pour moi parce que c'est très compliqué. C'est toujours été très compliqué de me projeter, même à très court terme. Donc c'est des grandes questions. Mais j'ai toujours été pas mal à vivre au gré des opportunités, des flux des projets, à me laisser un petit peu porter le nez au vent. Et là, ce que je me souhaite, c'est peut-être de. Peut-être pas dans l'année qui vient, mais assez vite, d'être portée par un projet un peu plus grand que moi. Okay. Voilà, d'embrasser un projet un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus... voilà,
dans lequel tu t'investis,
voilà.
Tu fais part. Ok, voilà. Super, bah je te le souhaite.
Merci.
Merci Leslie.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves, vivez l'instant, osez la liberté. Soyez juillet.